Emmanuel Lincot, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef de Monde Chinois. Quel est le positionnement de la revue Monde Chinois ?
Monde Chinois n'est pas une revue universitaire, c'est une revue grand public qui s'adresse à des non-spécialistes de la Chine, mais qui inclut à la fois des universitaires, pour le coup, des gens qui s'intéressent et qui sont regroupés autour d'un thème. Donc, à chaque fois, nous avons un thème fédérateur, je dirais. J'ai le souvenir de Chine-Moyen-Orient, plus récemment le numéro 24, Médias et pouvoirs en Chine. Donc à chaque fois, on privilégie une alternance entre ce que les Américains appelleraient du soft power et du hard power. Donc c'est une façon de fidéliser, bien sûr, notre lectorat et de diversifier, finalement, une situation extrêmement complexe, celle de la Chine dans son rapport avec l'extérieur.
Alors justement, on va aborder le contenu du numéro 24. Entre la Chine et les médias, c'est un peu « je t'aime, moi non plus ».
C'est du « je t'aime, moi non plus », effectivement. C'est une relation clivée, c'est une relation en même temps évolutive. Ce n'est pas un numéro qui engage un parti pris particulier par rapport à un autre. C'est une façon, je dirais, assez objective et distancée d'essayer de rendre compte d'une situation dans toute sa diversité, d'une part sur le plan historique, en montrant justement que le journalisme longtemps, surtout à la fin de la période maoïste, à la fin des années 70, était un journalisme de chronique, contestataire d'une certaine manière, ou d'une manière, je dirais, détournée, par voie de détour, c'est-à-dire une façon métaphorique de dénoncer une situation donnée. On pense au grand chroniqueur Liu Binyan en particulier, et puis jusqu'à une situation beaucoup plus actuelle, Liu Xiaobo, qui prenait une plus grande liberté de la presse hein, dans cette fameuse charte 08, qui lui a valu son arrestation, comme on le sait.
Ça s'est mal terminé pour Liu Xiaobo. Est-ce qu'on pourrait dire que la Chine est devenue une superpuissance médiatique mondiale ?
D'une certaine manière, oui, parce qu'elle s'en est donné les moyens. On le voit à travers Xinhua, l'agence Chine Nouvelle, qui a développé des bureaux partout, y compris en Afrique subsaharienne. Donc des relais très importants qui dépendent directement ou indirectement du pouvoir central. Je pense aussi aux instituts Confucius, qui n'ont pas que des activités de nature pédagogique, hein, qui cherchent, sans vouloir mal y penser, à transmettre des informations et diffuser, c'est le but même de ce type d'organisme, comme l'est par exemple l'Alliance française du côté français, de diffuser une certaine culture chinoise, mais aussi d'amasser des informations. Et donc, malgré le dispositif de censure qui demeure très très présent et très prégnant dans la réalité des médias en Chine, il y a, c'est vrai, une plus grande diversité en Chine par rapport au traitement de l'information.
Alors, vous avez évoqué l'agence de presse Xinhua. Est-ce qu'on peut imaginer un jour la fin du monopole de cette agence ?
On y vient progressivement parce qu'il y a notamment dans certaines provinces une presse un peu plus libre, et surtout ne jamais oublier la diversité du monde chinois. C'est d'ailleurs pour cette raison que notre revue porte ce nom. Elle sera amenée sans doute lors du numéro suivant à avoir un titre supplémentaire, celle de l'Asie nouvelle ou de la nouvelle Asie, nous hésitons encore quant à la dénomination particulière. Pourquoi ? Parce que il ne faut jamais exclure Taïwan ou bien Hong Kong, mais aussi les relais de la diaspora qui jouent un rôle absolument fondamental. Et on le voit par rapport aux crises arabes, hein, qui ont un impact indirect mais réel par rapport à la façon d'aborder l'information et surtout de contester l'autorité. De plus en plus de Chinois relayent d'eux-mêmes l'information sans être nécessairement journalistes. Ce qui, d'ailleurs, pour la profession d'une manière générale, comme en Occident d'ailleurs, il va y avoir, je pense, dans les années à venir, une remise en cause profonde des missions, des tâches assignées aux journalistes d'une manière générale.
Eh bien, c'est ce qui nous attend. Est-ce qu'il y a un marché européen pour Xinhua ?
Bien sûr, il y a un marché européen. Xinhua est très présente à Bruxelles en particulier. Dans toutes les capitales européennes, ils s'en donnent les moyens avec des staffs de traducteurs remarquables, de gens qui connaissent de mieux en mieux la situation des pays où ils sont envoyés. Oui, c'est une extraordinaire galaxie de relais dont dispose Pékin, mais ne pas sous-estimer encore une fois les autres Chines, celles de Taïwan, de Hong Kong ou de la diaspora qui jouent à leur tour un rôle qui leur est particulier.
Mais dont le paysage est quand même bien différent. L'association entre médias et pouvoir est perçue en Occident comme contre-nature. Alors, ce n'est pas la même chose en Chine. Comment ça se fait ?
Déjà parce qu'on n'est pas du tout dans une logique de séparation des pouvoirs. Donc on est dans un régime autoritaire, on n'est plus dans un régime totalitaire, sans vouloir jouer sur les mots, il y a quand même une différence très sensible dans le comportement même de ce pouvoir et dans le ressenti des gens dans le quotidien, si vous voulez. La Chine des années 70 n'a plus rien à voir avec la Chine d'aujourd'hui, naturellement, mais il est bon de le rappeler, donc nous ne sommes plus dans une structure totalitaire. Cependant, comme il n'y a pas de séparation entre les pouvoirs, évidemment, le pouvoir du prince muselle le pouvoir du sage, et je dirais que sur la longue durée, sans vouloir donner une interprétation trop culturaliste de ce qui particularise justement cette relation très très ambiguë, il y a sans doute là un trait caractéristique de la culture chinoise, c'est-à-dire que le fait de penser par écart, le fait de penser en dissidence est rendu sans doute plus difficile traditionnellement qu'en Occident, où la sécularisation des sociétés occidentales puis la séparation des pouvoirs ont permis justement ont permis une émergence du métier de journaliste et du statut même de l'intellectuel, ce qui reste aujourd'hui encore très largement entravé dans la réalité chinoise.
La liberté de la presse est un bon baromètre du niveau de la démocratie d'un pays. Qu'en est-il en Chine ?
Eh bien, je dirais que tout dépend évidemment des sujets abordés. On le voit pour les crises arabes, par exemple, il y a eu un blackout total au niveau de l'information. Quand vous étiez en Chine à ce moment-là, le fait, par exemple, de taper le nom de Moubarak ou d'Égypte même vous valait une fin de non-recevoir. En revanche, pour d'autres affaires qui sont loin d'être banales, je pense par exemple à l'affaire du lait contaminé, eh bien, il y a eu des relais d'information et souvent le régime est amené à laisser faire parce que c'est une façon de décomplexifier une situation sans intervenir directement. C'est une façon d'agir dans le non-agir, je dirais, d'une façon très très pertinente et sans doute là encore très chinoise, marquée par un certain tropisme chinois d'agir dans le non-agir. Et on a des exemples très nombreux, surtout dans le sud de la Chine, dans la province du Guangdong en particulier. Bon, c'est lié à l'histoire même de cette province qui entretient des relations assez singulières, assez marginales par rapport au centre même.
Alors comment travaille un journaliste chinois ? J'ai bien dit chinois et pas un journaliste étranger en Chine.
Comme un historien ou un universitaire d'une manière générale, il prend énormément de risques s'il veut faire son travail correctement et jusqu'au bout. Parce que lorsque vous vous intéressez à des faits passés, de fraîche date ou plus anciens, dans une réalité autoritaire, c'est toujours beaucoup plus dangereux que de vous intéresser au futur ou au présent. Parce que l'histoire peut toujours être amenée à être réécrite, réinterprétée, à l'aune des besoins idéologiques les plus actuels, si vous voulez. Donc c'est prendre des risques considérables. C'est jouer souvent avec le feu, mais il y a de plus en plus de jeunes ou de moins jeunes journalistes qui prennent ces risques-là au même titre que des avocats aux pieds nus, comme on les appelle, ou bien des universitaires à proprement parler, qui dénoncent frontalement les carences du système, en prenant fait et cause notamment pour les Mingong, les travailleurs migrants, que sais-je encore, enfin tous les problèmes auxquels est confrontée la société chinoise, et ils sont nombreux comme on le sait.
Ça veut dire qu'il faut jouer au plus fin avec la censure ?
C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux et il faut saluer le courage de ces gens qui sont souvent restés dans l'anonymat en Occident mais qui prennent des risques tout à fait considérables.
Il y a une corruption de la presse ?
Il y a bien sûr une corruption de la presse, soit pour masquer des affaires, soit pour acheter la confiance de tel ou tel journaliste. Je dirais que c'est une propension très très humaine que de traiter de cette manière-là, mais se développera peut-être dans la Chine future ce que l'on connaît aux États-Unis, le métier de watchdog, hein, c'est-à-dire vraiment surveiller de très près les aléas du pouvoir et dénoncer le pouvoir dès lors où il y a une dérive de ses dirigeants.
La presse est-elle toujours perçue comme un outil de propagande ?
Très largement. Très, très largement. C'est pour cette raison que lorsque l'on apprend le chinois en Occident ou en Chine, a fortiori davantage, il faut toujours d'abord apprendre à lire entre les lignes, lire au-delà des mots. C'est très important et je dirais que c'est l'intelligence même de la Chine que de pouvoir lire et découvrir ce que les mots cachent ou recouvrent.
Il y a toujours un décryptage préalable. Alors Internet finalement change beaucoup la donne en matière de contrôle de l'information.
Oui, parce qu'il y a déjà 450 millions d'internautes, ce qui est considérable. Et donc, inévitablement, le pouvoir, malgré tous les pare-feux qui sont installés par des hauts fonctionnaires ou des fonctionnaires qui en ont la charge, ne pourront pas éternellement surveiller la toile. C'est absolument impossible. Donc, c'est une question de temps. Le pouvoir en est parfaitement conscient. Il n'est que de réentendre le discours du Premier ministre Meng Jiaobao qui en appelait donc à un développement du bonheur du peuple. Hein. Je crois qu'au-delà même de l'ironie de la formule, il y a très sincèrement une alerte très sérieuse qui a été donnée depuis ces crises arabes, depuis ces insurrections arabes aux dirigeants chinois, que de la nécessité de réformer le système, parce que le développement économique à tout va ne suffit plus, il faut un accompagnement institutionnel, et il faut surtout que la majorité de la population puisse bénéficier de ces réformes, ce qui est encore loin d'être le cas. On a toute une population qui est largement frustrée, lésée et bafouée dans ses droits, systématiquement.
Le rêve de Facebook, c'est d'être en Chine. Vous pensez que ça va arriver bientôt ?
C'est déjà en partie le cas parce que vous avez des serveurs parallèles qui font office, je dirais, de Facebook. Hein. Techniquement, c'est déjà possible. Hein. C'est de l'ordre non plus de la probabilité, c'est de l'ordre du possible. C'est une question, à mon avis, de temps. Et justement, le régime chinois, je crois, va être confronté à des échéances qui sont extrêmement sérieuses, dont la première officiellement, consistera donc à nommer toute la nouvelle direction des hauts cadres à partir de 2012, hein, donc c'est déjà demain si vous voulez, et le régime est à mon avis sur la sellette.
Comment les médias occidentaux sont-ils perçus en Chine ?
Bien souvent, il y a une désinformation qui est entretenue par le régime lui-même. Une affaire bien connue, c'est l'affaire de la fameuse torche olympique à Paris, hein, qui avait provoqué l'ire des autorités chinoises. Instrumentalisation, naturellement, le fait de censurer un certain nombre d'images, ou bien d'être emphatique dans la manière de présenter d'autres images, c'est évidemment une Chine qui n'est pas forcément très très agréable, très enviable et très empathique, hein, c'est-à-dire que c'est une Chine qui veut bien montrer ce qu'elle veut montrer, tout simplement.
Quel rôle jouent les intellectuels en Chine ?
Alors l'intellectuel chinois, comme je vous le disais, a un statut assez ambigu, parce que dans la Chine impériale, en tout cas, le lettré est le conseiller du prince, donc il est entravé de par sa fonction même, si vous voulez. La possibilité pour lui de penser par écart, c'est soit de choisir l'exil, soit, dans le pire des cas, le suicide. Et il y en eut très souvent. C'est une façon de dénoncer l'ordre établi par une suppression violente et physique de soi-même. Bon, les choses sont amenées, heureusement, à changer. Mais je crois que le changement fondamental vient du fait que les frontières entre le local et le global s'estompent de plus en plus. C'est-à-dire que il y a un tel flux de population entre l'intérieur et l'extérieur du pays, des relais au sein de la diaspora ou des autres Chines que je mentionnais tout à l'heure, et Taïwan, qui est l'exemple par la preuve même qu'une démocratie est possible dans le monde chinois. Que le pouvoir chinois, véritablement, est aux abois. Hein, et donc, il n'y a pas d'autre solution pour lui que d'accélérer très très vite la démocratisation du système.
Les médias chinois emploient des étrangers. Est-ce que c'est pour mieux assurer leur soft power ?
Alors, il y a une étude très récente qui vient d'être publiée, d'Anne Stoetmont, qui est extrêmement intéressante à ce sujet, qui a pris le courage justement de travailler pour Xinhua et de rendre compte, et je crois que c'est la première dans l'histoire du journalisme pratiqué par des étrangers au service du journalisme chinois, ce type d'étude. C'est une façon, bien sûr, d'instrumentaliser l'étranger et de ramener les vues des étrangers aux vues de la Chine en général, hein, naturellement. Oui.
Eh bien, on ne peut pas mieux conclure. Emmanuel Linco, merci. Bruit de Chine sur Radio Campus 106.6 jusqu'à 13h. Nous écoutions l'entretien que j'ai réalisé avec Emmanuel Linco, rédacteur en chef de la revue Monde Chinois, à propos de médias et pouvoir en Chine. Dans quelques instants, rendez-vous avec Michel Masson et Matteo Ricci, juste après la musique. Chine sur Radio Campus 106.6 jusqu'à 13h. Nous sommes actuellement en compagnie de Michel Masson, qui est sinologue, jésuite et directeur de l'Institut Ricci à Paris. Michel Masson est l'auteur de Matteo Ricci, un jésuite en Chine, Les savoirs en partage, un ouvrage dans lequel il brosse le portrait de cet homme exceptionnel qui était Matteo Ricci, surnommé le lettré d'Occident, passeur de culture entre l'Europe et la Chine, tout en se livrant à un inventaire des connaissances scientifiques de l'époque en Europe et en Chine. Autant dire que le propos est dense. Alors Michel Masson, comment avez-vous travaillé pour écrire ce livre qui est bien plus qu'une biographie de Matteo Ricci ?
Écoutez, je n'ai pas vraiment écrit beaucoup dans ce livre. J'ai retrouvé des articles assez anciens déjà, mais faits par des gens très compétents, et des articles qui devenaient introuvables. Donc deux articles de Joe Chebes, qui était professeur à Georgetown aux États-Unis, qui retrace un peu l'ensemble de la vie de Ricci et des problèmes qu'il se posait à propos donc de l'évangélisation de la Chine, et puis des articles du père Bernard Maître, qui a beaucoup étudié le rapport de Ricci et de la science chinoise, lui, le père Bernard Maître, travaillant dans les années 30-40. Et à ceci, alors nous avons ajouté la traduction d'un chapitre du grand livre de Matteo Ricci, La doctrine du Seigneur du Ciel, et donc ce chapitre qui est un dialogue entre un lettré confucéen et un lettré d'Occident, en gros sur l'activité morale. Est-ce que l'activité morale doit avoir une intention quelconque ou être complètement désintéressée ? Et puis, je me suis dit que tout cela était bien sérieux. Et alors, nous avons rajouté 8 lettres de Matteo Ricci qui ne sont pas encore traduites en français. Et donc, qui montrent un Matteo Ricci, alors beaucoup plus humain, râlant de temps en temps que la vie est un peu trop difficile, écrivant à son père en disant « Je ne sais pas si vous avez reçu ma dernière lettre ». etc., etc. Donc ça donne un aperçu, je dirais, pas complet, mais enfin assez intéressant de la vie de Ricci.
Alors justement, à propos de la vie de Ricci, qui était ce Matteo que les Chinois appelaient Limadou et qui fait encore parler de lui 400 ans après sa mort? Parce que c'est pas banal qu'on en parle encore.
Eh bien, c'était essentiellement un Italien de la Renaissance, donc qui avait suivi des cours d'astronomie, de mathématiques, de philosophie, sans être un spécialiste de tout cela, qui a été envoyé aux Indes, comme on disait à cette époque-là, puisque c'est l'époque où les Portugais venaient de découvrir jusqu'au Japon. Et là, il a été envoyé à Macao, où on lui a demandé d'apprendre le chinois, et donc c'était un des tout premiers vraiment à apprendre le chinois, apprendre à lire, à écrire le chinois. Et à cause de tout cela, il a été invité à venir résider en Chine, dans le sud de la Chine. Et après, donc pendant 27 ans, ça a été la montée jusqu'à Pékin, qui n'allait pas de soi, parce qu'il y avait une xénophobie quand même très grande. Et finalement, donc, il arrive à Pékin en 1601, et il est autorisé par l'empereur à rester là sur place. Et alors, tout au long de ce long séjour en Chine, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il parle beaucoup astronomie, mathématiques, cartographie avec des lettrés chinois. Il parle aussi de sujets plus philosophiques. Et de cette façon, il est admis donc non seulement à rester, mais à donner un peu à beaucoup de gens l'impression que le christianisme n'était pas une secte dangereuse, mais quelque chose de très respectable.
Alors, 27 ans pour arriver au but de son voyage, puisque Pékin, c'était le but. Au départ, il s'était dit, il faut aller à Pékin, ça fait quand même très très long.
Oui, ça fait très long, surtout qu'en fait, le premier but dans cette idée d'aller à Pékin, dans cette stratégie en quelque sorte, qui n'était pas en fait celle de Ricci proprement dit, mais plutôt de Valignano, qui était son supérieur, parce que ces gens-là s'étaient rendus compte, Valignano, François-Xavier avant lui, qu'au Japon, il y avait des gens c'était des gens très cultivés, qui s'intéressaient aux sciences, avec qui on pouvait parler. Et donc, si vous voulez, il ne suffisait pas de sortir dans la rue avec un crucifix et de crier en portugais, convertissez-vous, convertissez-vous. Donc, Valignano a dit, il faut changer de méthode. Et alors, c'est ce qui s'est passé. Et alors, où la méthode a aussi changé un peu, c'est quand Ricci s'est aperçu qu'il avait mis dans sa maison en Chine une planisphère qui a fait beaucoup de bruit parce que c'est la première fois que les Chinois découvraient l'Europe avec tous ses pays, la côte ouest de l'Afrique et puis les deux Amériques. Et alors à partir de cela, ça c'était un peu imprévu, c'est à partir de là que s'est développé donc tout ce dialogue sur des questions scientifiques et cartographique et philosophique. Alors, cela a pris quand même beaucoup de temps. Bon, parce que, oui, c'était le premier étranger visible en Chine depuis très longtemps. Il y avait une guerre au Japon, ce qui rendait tout étranger en Chine un peu suspect. Et pour pouvoir arriver jusqu'en haut, il fallait quand même avoir des tampons quelque part. Et pour avoir ces tampons, donc, il fallait s'être fait des amis déjà avec un certain nombre de hauts fonctionnaires en route. Et alors ce qui est amusant, c'est que la dernière étape où finalement on lui dit ça y est, tu peux aller à Pékin, il se fait arrêter en cours de route par un eunuque qui lui confisque toutes ses affaires, plus le bureau des rites, c'est-à-dire donc en gros le bureau chargé des étrangers intervient aussi dans tout cela, et Ricci se trouve en quelque sorte prisonnier pendant 6 mois, soit de l'eunuque, soit du bureau des rites, avant d'être finalement sorti de là par l'empereur.
Et il était le premier Européen à pénétrer à Pékin et à aller dans la cité interdite.
Il était le premier Européen, enfin, depuis Marco Polo, et quelques autres au nord de la Chine à l'époque de Marco Polo. Bon, il est entré dans la cité interdite, enfin là, il faut être un peu modéré. Ce qui s'est passé, c'est qu'il apportait des présents, puisqu'il venait en tribut, en quelque sorte, devant l'empereur, il apportait bon, toute une série de cadeaux. Il y avait des peintures, il y avait des instruments, des prismes vénitiens et des horloges qui sonnaient toutes seules. Et ça, ça fascinait l'empereur, qui était un peu une espèce de playboy absolument irresponsable. Et c'est surtout ces horloges qui l'ont fasciné. Il a dit, mais alors ces horloges, c'était le dernier cri sans doute au XVIe siècle, mais elles tombaient en panne très souvent. Et donc l'empereur a demandé, il fallait que Matteo Ricci reste à Pékin pour pouvoir remettre ses horloges en route quand elles tombaient en panne. Et c'est ainsi donc qu'il a effectivement été introduit de temps en temps dans la cité impériale, sans jamais rencontrer l'empereur lui-même.
Juste pour réparer ses horloges. Alors Ricci était versé à la fois en mathématiques, en mécanique, en astronomie, en littérature, philosophie, poésie, théologie, cartographie, horlogerie, musique. Pas étonnant qu'on lui prêtait une mémoire prodigieuse.
Oui, alors il avait, effectivement, il avait une très grande mémoire. Ceci dit, on n'en sait pas plus.
C'est donc pas lui qui nous l'a dit.
On dit souvent, oui, il était capable de réciter un texte ou une série de caractères tout de suite après les avoir vus, et même de les réciter à l'envers. Donc il avait effectivement une très grande mémoire. Il attribuait cela à des techniques mnémographiques, mnémotechniques, qui étaient effectivement en cours en Occident à cette époque. Ça a beaucoup intrigué les Chinois qui lui ont demandé de lui expliquer quelque chose. Donc il a traduit en chinois un petit livre de mnémotechnique qu'il avait fait quand il était en Italie. Mais en fait, les Chinois sont aperçus que ce petit traité ne leur servait pas à grand-chose.
Alors est-ce qu'on pourrait dire que Ricci, c'est un peu l'archétype de l'honnête homme de la Renaissance, doublé tout de même d'un aventurier ?
L'honnête homme de la Renaissance, certainement, avec quand même en plus quelques compétences. J'ai dit que ce n'était pas un astronome de métier, ça il l'a redit tout le temps, mais il savait fabriquer des appareils, il savait fabriquer des astrolabes. Quand il est allé à un endroit un peu à l'ouest de la Chine, il a trouvé des astrolabes faits par des astronomes arabes au XIIIe siècle, et il a très bien vu comment ça fonctionnait, et que ces astrolabes n'étaient plus à leur bonne place, par exemple. Donc c'est quelqu'un qui avait aussi, savait faire beaucoup de choses avec ses doigts. Donc c'était un peu plus qu'un lettré de la Renaissance. Un aventurier, je n'emploierai pas le mot, certainement quelqu'un d'une très grande énergie, grand courage, une grande maîtrise de lui-même, ça qui a été remarqué par les Confucéens. C'est quelqu'un qui, dans une conversation, était capable d'écouter, de laisser les autres parler avant de dire ce qu'ils pensaient. Une bonne santé aussi, parce que tout cela était extrêmement, déjà ne serait-ce que pour survivre au voyage, pour arriver jusqu'à Goa, il fallait une très bonne santé et quand même pas mal de chance. Et alors on peut ajouter à tout cela, il a eu aussi beaucoup de chance. C'est-à-dire il a quand même eu la chance de trouver des lettrés, d'abord au sud de la Chine, qui l'ont invité à venir habiter en Chine alors qu'il n'avait aucun droit de le faire et c'était contre tous les règlements. Il en a trouvé d'autres qui ont compris l'importance de ce qu'il apportait. Par exemple, même des lettrés qui ont compris l'importance d'Euclide et qu'il était important de traduire au moins les 6 premiers livres d'Euclide parce qu'il voyait que là, il y avait des principes de base qui manquaient aux mathématiques chinoises. Et que donc ces principes de Ricci plus un certain nombre de ses méthodes concrètes d'observation, par exemple pour la cartographie, plus ces principes moraux, tout cela pouvait peut-être aider à sortir la Chine du marasme un peu moral dans lequel elle se trouvait à la fin de la dynastie des Ming.
Alors Ricci était à la fois un passeur de Chine et le précurseur de la sinologie française. Sachant que c'est Napoléon qui, bien plus tard, en 1814, créera la chaire de sinologie du Collège de France, qui était une première en Occident. Mais c'est quand même Ricci qui a un petit peu lancé l'intérêt pour les études chinoises.
Alors, on ne peut pas dire que Ricci était l'initiateur ou le fondateur de la sinologie. Ça, c'est venu plus tard. On peut dire que c'est plutôt avec les jésuites qui lui ont succédé au XVIIIe siècle, spécialement les mathématiciens du roi, donc des jésuites français qui étaient envoyés par Louis XIV expressément comme experts. Et là, alors, il y avait de véritables, des professionnels de l'astronomie ou des mathématiques. Ricci a simplement ouvert la porte fermée, c'est-à-dire à la fois il a montré aux occidentaux ce qu'était la langue chinoise, il a fait un petit dictionnaire chinois-portugais, il a traduit les quatre livres fondamentaux du confucianisme, qu'il a traduit en latin bien entendu, et surtout son journal, puisque dans les deux dernières années de sa vie, il a entrepris quand même de mettre par écrit tout ce qu'il avait vécu en Chine. Et ce journal a été traduit très vite en latin par Trigo, et ensuite dans différentes langues européennes. Et donc ce journal a été lu alors par nos lettrés à nous, fin XVIIe siècle, et puis après les Voltaire, les Rousseau et les Montesquieu.
Et aussi Leibniz. Voilà, on a évoqué tout à l'heure le premier dictionnaire chinois-portugais de Ricci, et donc là aussi il a été l'initiateur de ce fameux dictionnaire Ricci que vous connaissez bien par ailleurs, vous, directeur de l'Institut Ricci à Paris.
Oui, enfin, initiateur à 400 ans de distance, c'est beaucoup dire.
Ah, il a quand même
bon, effectivement, bon, il y a une tradition qui est restée un peu, que des dictionnaires étaient importants. Mais du reste, là, il faut le dire avec un peu de modestie jésuite, si on peut dire, parce que tous les ordres missionnaires, en Chine notamment, ont fabriqué des dictionnaires, que ce soit les missions étrangères de Paris ou les pères de Skeut ou autres.
Les dominicains aussi, ils ont fait des dictionnaires.
Les dominicains, un peu moins en Chine, mais ils ont dû le faire aussi. Mais ce qui est plus important sur ce dictionnaire de Matteo Ricci, portugais-chinois, qui, du reste, dont on avait l'exemplaire original dans les archives des jésuites à Rome et qui dormait tranquillement là depuis 400 ans, donc il n'a été publié qu'il y a une dizaine d'années, c'est que Ricci inventait une romanisation pour traduire les sons chinois. Donc maintenant vous parlez du pinyin, n'est-ce pas? Bon, donc ça c'est le premier pinyin, et ceci a été important, alors bien entendu pour les Européens, mais aussi pour les linguistes chinois au cours du XVIIIe siècle, parce qu'ils se sont rendus compte que cette méthode de transcription avec des lettres romaines était plus précise que la méthode chinoise traditionnelle qui consistait à, pour indiquer le son d'un caractère, à prendre deux caractères ayant des sons comparables. Et que, d'autre part, ce dictionnaire permettait aux lettrés chinois du XVIIIe siècle de voir quelle était la prononciation exacte en Chine à l'époque de Ricci. Donc ce dictionnaire a eu, je dirais, dans l'histoire de la linguistique chinoise, une assez grande importance.
Et aujourd'hui, le grand Ricci est paru en 2010 dans sa toute nouvelle édition.
Alors le grand Ricci est d'abord paru en 2001 dans 7 volumes, composés donc par les pères de l'Institut Ricci de Taipei, notamment le père Camus, oui aussi le père Raguin, le père Lefeuvre. Donc c'est un ensemble de 13 000 caractères avec 300 000 expressions, et tout cela revu et corrigé par à peu près une bonne soixantaine de sinologues français ou francophones au long des années. Donc ce dictionnaire a une longue histoire, il a duré 50 ans à peu près, mais pour un dictionnaire ce n'est pas absolument extraordinaire qu'il faille beaucoup de temps. Et alors 2010, c'est un CD-ROM de ce dictionnaire qui vient de sortir.
Alors, on a parlé tout à l'heure du grand voyage de Matteo Ricci, donc du Portugal en passant par Goa jusqu'en Chine. Alors, dans ses bagages, il avait mis tout un tas d'objets étonnants, dont les horloges, dont les map-mondes, mais dont aussi une épinette. Alors, j'ai envie à ce moment-là de l'émission de passer une musique que Ricci, en tout cas, dont il avait peut-être la partition dans ses bagages. C'est un hymne à la Vierge que, en tout cas, tous les gens autour de Ricci ont dû pouvoir entendre, que ce soit les Chinois ou les Européens.
Thank you.
Alors voilà un peu ce qu'on pouvait entendre en Chine, peut-être entre Macao et Pékin, au moment où Ritchie y était. Alors on a parlé de son extraordinaire méthode d'évangélisation de la Chine. Il était en tout cas très conscient de l'ampleur et de la difficulté de sa tâche, parce qu'il disait d'ailleurs « Nous ne sommes pas en Chine pour récolter ni même pour semer, mais seulement pour en défricher la forêt ». Ça veut dire qu'il s'était rendu compte, en tout cas, que c'était très difficile. Alors, est-ce que devenir un petit peu chinois pour mieux convertir les Chinois, c'était une idée complètement révolutionnaire et aux antipodes de ce qui se passait en Amérique latine au même moment? Pourquoi ça s'est passé en Chine comme ça?
Bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous voulez, cette idée qu'il fallait une nouvelle méthode d'évangélisation.
Et ça veut dire que l'autre ne fonctionnait pas bien?
C'est-à-dire, au moins, on se disait que l'autre ne fonctionnerait pas au Japon. 1551, c'est-à-dire la date, en gros, où Xavier est au Japon, vous avez la conférence de Tordesillas en Espagne, où tous ces théologiens se rassemblent pour savoir est-ce que les Indiens d'Amérique sont vraiment des hommes. Et alors, au même moment, vous avez François Xavier disant « Au Japon, ce sont des gens de très grande qualité ». Alors, ceci ne veut pas dire qu'en Amérique latine, c'était uniquement une conversion forcée ou à travers des langues étrangères et tout ça, parce qu'il y a aussi eu des gens comme Ruiz de Montoya, par exemple, qui a mis tout l'accent sur l'apprentissage de la langue, sur des études sur la langue locale, entre autres pour savoir si dans la langue des Guarani, il y avait un mot qui pouvait représenter le dieu de la Bible. Il a dit que oui. Et Ritchie faisait la même chose en Chine.
Sauf qu'il n'y a pas de mot en chinois pour dire Dieu.
Il n'y a pas de mot en chinois pour dire Dieu? Dans quel sens?
C'est-à-dire que le vocabulaire chinois, en tout cas de l'époque, n'avait pas le mot Dieu traduisible par rapport à notre langue.
Mais est-ce que la langue grecque avait un mot pour désigner le dieu de la Bible? Ils ont pris Théos, et ça a fait l'affaire. Et donc Ritchie lui a trouvé dans les anciens textes confucéens un ou deux termes, comme justement le Seigneur d'en haut, ou le ciel, en disant, mais voilà, ces gens-là, en fait, n'étaient pas des polythéistes, et ils avaient un culte du ciel, et cela, ça correspond en quelque sorte au dieu de la Bible.
Oui, mais alors, le fils du ciel, c'était l'empereur. Alors,
le fils du ciel, c'est l'empereur.
Ça fait deux dieux, c'est pas possible. Donc, comment les Chinois auraient-ils
dire
pu...
que dire que l'empereur, c'est le fils du ciel, c'est de même que David peut se dire le fils de Yahweh aussi. Donc, il est bien entendu que c'est un homme qui a un certain rapport très spécial avec la divinité, dont on peut dire peut-être que la divinité l'a adopté comme son fils, mais il est bien clair que l'empereur n'est pas divin en Chine, de même que David n'est absolument pas divin dans l'Ancien Testament.
Quelle raison pouvait avoir un Chinois du XVIIe siècle ou de la fin du XVIe siècle pour se convertir au christianisme?
Eh bien, c'est une très bonne question. Il y a le livre très célèbre du professeur Jacques Gernet, Chine et christianisme, je crois que c'est la première rencontre, première confrontation, dans lequel il pose quelques questions très sérieuses en se disant, mais est-ce qu'un Chinois de l'époque des Ming pouvait vraiment comprendre cette théologie chrétienne qui était en plus fondée sur une philosophie occidentale, Aristote et tout ça? Donc, qu'est-ce que ces Chinois convertis comprenaient ou ne comprenaient pas? Bon, c'est une question, oui, très sérieuse. Ce qui semble, c'est que d'abord, les grands lettrés convertis ont été très peu nombreux. Il y en a peut-être eu une quinzaine. Tandis qu'à la mort de Ritchie, il y avait 2500 chrétiens. Alors, il faudra voir qui étaient ces 2500 chrétiens. Mais pour les lettrés convertis, je crois que c'est ça. Ça a été la vision qu'à la fois la théologie, la philosophie de Ritchie, plus ces savoirs scientifiques qui, par bon nombre de côtés, étaient en progrès par rapport avec ceux de la science chinoise de l'époque, plus cette insistance sur la vie morale dans un pays où il y avait déjà beaucoup de corruption et beaucoup de, enfin, où la vie morale n'était pas forcément extraordinaire, qu'il y avait dans tout cela un ensemble de choses qui pouvaient permettre à sauver le pays d'une certaine façon. Alors, vous me direz, c'est sans doute peut-être très ambigu, mais enfin, nous n'en savons pas plus exactement sur ce que pensaient tous ces gens.
Alors, on pourrait dire qu'il a utilisé la science pour évangéliser, et c'est une expérience qui n'a été tentée qu'en Chine.
C'est-à-dire, il a... Plus tard, il y a des missionnaires qui vont lui reprocher en disant « Mais on ne convertit pas, on n'évangélise pas avec des mathématiques. » Ricci n'avait pas du tout conscience... même d'évangéliser avec des mathématiques. Les mathématiques étaient l'objet d'une discussion entre gens éduqués pour développer justement cette bonne entente, ce respect mutuel, ces amitiés qui feraient que peu à peu les gens s'habitueraient, s'accoutumeraient à tout ce nouveau discours et à toute cette nouvelle conception de l'existence.
Alors, accommoder le christianisme un petit peu à la mode confucéenne, c'est a priori incompatible, vu de ce côté-ci de la planète. Et finalement, est-ce que Ricci n'était pas devenu lui-même un peu confucéen?
Alors, comme vous le dites, accommoder le christianisme à la sauce confucéenne, ça peut paraître un peu curieux. Mais là, moi, je vous remploie tout de suite la question en disant la sauce confucienne, mais qu'est-ce que les gens d'Occident connaissent à Confucius et au confucianisme pour en faire une sauce?
Eh bien, rien.
Alors, bien sûr, il y a des sinologues, quelques sinologues qui le connaissent, mais c'est toujours ce problème, c'est que nous sommes ces deux civilisations, deux grandes civilisations qui se rencontrent. Et ce qu'a vraiment vu Ricci, c'est qu'il s'agissait de cela, de deux civilisations qui se rencontrent, alors que beaucoup de missionnaires, tout de suite après lui et encore beaucoup plus après lui, n'ont jamais réalisé cela, c'est-à-dire sont un peu venus avec leur culture européenne sans même s'en rendre compte et ignorant tout de ce que pouvait être la culture chinoise qu'ils avaient en face d'eux.
Alors, à propos de culture chinoise, vous publiez un intéressant dialogue entre un lettré chinois et un intellectuel occidental. C'est écrit par Ricci. Et le titre, c'est, on en a parlé tout à l'heure, « La vraie doctrine du Seigneur du Ciel ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces deux conceptions du monde qui sont tout de même extrêmement intéressantes et même encore aujourd'hui, se plonger un petit peu dans ces différences pour mieux comprendre la Chine d'aujourd'hui?
Oui, je pense que cela reste vrai pour la Chine d'aujourd'hui. C'est-à-dire, bon, je cite souvent quelqu'un qui, je crois que c'est Jin Guanta, si je ne me trompe pas, qui est un physicien, qui est devenu historien des idées, qui est maintenant à Hong Kong, disant que dans la conception chinoise, il n'y a que deux pôles possibles pour l'existence, c'est-à-dire la relation, le service de la société et la perfection morale individuelle. C'est-à-dire, il n'y a pas de place pour un troisième pôle qui serait un dieu personnel. Et ça, je crois que cela reste foncièrement vrai. Alors vous me direz, oui, mais après la révolution culturelle, avec le marxisme et tout ça est différent. Oui, tout ça est différent, mais les anthropologues vous diront aussi que ces grandes traditions religieuses ne disparaissent pas du matin au soir. Alors, Ricci donc s'est trouvé au fond devant un peu ce même problème, c'est-à-dire il a cherché un terrain commun avec lequel il pouvait discuter, et donc très vite ils ont pu discuter sur des questions de morale, où Ricci a publié par exemple deux ou trois livres où il y avait beaucoup de citations des stoïciens, de Sénèque, de Marc Aurèle ou bien de Cicéron. Il a écrit ce petit livre sur l'amitié, qui a été un très très grand succès, traduit dans un tas de langues, japonais, coréen, etc. Donc tout cela allait très bien, on était bien d'accord, respect mutuel, désintéressement, justement, dans le respect mutuel, ne pas utiliser les autres pour des fins propres, même pour des fins qui seraient des fins spirituelles ou pour le royaume de Dieu, mais vraiment un respect mutuel très désintéressé. Seulement, à partir du moment où Ricci allait plus loin en disant « Mais enfin, si vous faites cela, c'est quand même pour Dieu, c'est pour servir Dieu », alors les confessiens disaient « Non, non, mais justement, c'est totalement désintéressé. » Et l'action totalement désintéressée est toujours supérieure à l'action intentionnelle qui est faite en vue de quelque chose. Et cela, bon, cela reste encore très vrai, je pense, à travers toute l'histoire chinoise. Et puis alors en plus, Ricci disait, mais oui, justement, il y a un Dieu, ce Dieu, qui par ailleurs va récompenser les bons et punir les mauvais, donc ciel, enfer. Et alors là, les confuciens disent, oh là là, halte au feu, mais c'est du bouddhisme que vous nous racontez là, avec votre enfer et avec votre ciel. Donc là, Ricci est pris un peu dans un cercle où il prend le côté du confucianisme contre le bouddhisme, mais il y a un moment où les confuciens lui disent « Mais ce que vous nous racontez là, c'est du bouddhisme », et aussi où, en fait, certains des livres qu'il écrit, les lettrés qui regardent ça disent « Mais ça, c'est comme du bouddhisme ». Donc là, il est pris dans un jeu d'influence religieuse que personne ne pouvait démêler.
Et donc lui, finalement, il n'est pas arrivé à les convaincre que ce qu'il disait n'était pas du bouddhisme et que l'enfer était aussi chrétien.
Ben, c'est-à-dire, c'est difficile de dire que l'enfer est chrétien jusqu'à quel point, mais là, on n'a pas le christianisme face au confucianisme, on a le christianisme de Matteo Ricci, homme de la Renaissance, de la contre-réforme, face au confucianisme, au pluriel, des lettrés de la fin des Ming. Et en fait, beaucoup de ces confuciens qui critiquaient le bouddhisme, en fait, en même temps, avaient beaucoup de contact avec le bouddhisme et avaient souvent des confucianistes très colorés par le bouddhisme. Mais alors là, pour Matteo Ricci, c'était quand même très difficile d'arriver à s'y retrouver dans tout ça.
Oui, et d'ailleurs, à propos de bouddhisme, quand il est arrivé, il avait pris l'habit des bonzes, parce qu'il pensait que c'était mieux pour passer, en tout cas pas inaperçu, mais se fondre dans la société chinoise, et puis il s'est rendu compte que c'était pas une bonne chose, parce qu'ils étaient socialement dans une hiérarchie très basse, les bonzes, et donc du coup, il s'est habillé comme un lettré, et c'est là que tout a commencé. Il a été considéré dans la société chinoise, et on a commencé à l'écouter. Comment les Chinois voyaient-ils le monde à l'arrivée de Ricci ?
Le monde,
le ciel, la terre, tout ça. Ils avaient une cosmologie particulière.
Eh bien, ils avaient oublié beaucoup de choses qu'ils savaient avant. Et donc, ils avaient un peu une théorie d'une terre carrée, d'un ciel rond. Mais ce qu'ils avaient, surtout d'immenses archives, si on peut dire. Ils avaient collectionné des observations, alors remontant à 1000 ans avant Jésus-Christ, d'éclipses ou tremblements de terre, etc. Mais tout cela avait été oublié. Alors là aussi, on peut dire que c'est une des raisons pour lesquelles on peut dire que Ricci a eu de la chance. Il est arrivé un moment où la science astronomique, mathématique en Chine n'était vraiment pas à son plus haut niveau.
Et il leur a un petit peu rappelé des connaissances qu'ils avaient déjà. C'est d'ailleurs les connaissances de l'islam qui avaient transité par la Chine et puis qui après s'était un petit peu évaporé. Ricci a aujourd'hui sa statue à Pékin. Il est presque vénéré comme protecteur des horlogers. D'ailleurs, j'ai vu ça, c'est assez amusant. Pour terminer, est-ce qu'on pourrait dire que Matteo Ricci a réussi sa mission en Chine ?
Oui, alors... Quelqu'un a écrit un livre, le père Laurentin a écrit un livre il y a 30 ans, un très bon livre sur l'histoire justement du christianisme en Chine, où il considérait chacune de ces étapes comme des occasions manquées, c'est-à-dire de très bonnes occasions, mais qui ont été ratées pour des raisons humaines, enfin sans doute de la part de l'Église, etc. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée-là. Je crois que Ricci a fait ce qui, au mieux tout ce qui était faisable, tout ce qui était possible de faire dans les circonstances, parce que nulle part il n'était écrit qu'on pouvait tout à coup convertir toute la Chine ou même la moitié de la Chine. Donc ce qu'il faut plutôt regarder, c'est ce qu'a fait Ricci, ce qu'il a accompli, et réfléchir là-dessus pour essayer de comprendre effectivement, ben voilà, que la société chinoise, elle est là, avec sa tradition à elle, avec des gens qui réfléchissent, qui se posent des questions, qui sont fondamentalement les mêmes questions que nous, mais qu'ils ont leur propre manière d'aborder et de mettre en ordre.
Combien de catholiques en Chine aujourd'hui ?
On pense 12 millions.
Bon, ben on peut dire qu'on a fait du chemin depuis Matteo Ricci. Alors, Michel Masson, merci. On vous retrouve ce soir pour une conférence sur le même sujet, donc, et sur l'ouvrage que vous avez écrit qui s'appelle Matteo Ricci, un jésuite en Chine, les savoirs en partage, édité par les facultés jésuites de Paris et l'Institut Ricci. Alors, cette conférence a lieu à la librairie Voyageurs du Monde à 19h30. C'est au 147 boulevard de la Liberté à Lille. Le métro, c'est République et le téléphone, c'est 03 20 06 76 30. Et c'est organisé en partenariat avec les amitiés franco-chinoises de Lille, Voyageurs du Monde et Bruit de Chine.